חירות, כי תות אפר דולה, הוא קראתם דרור, דרור, חירות. Et cette liberté-là, c'est la liberté du créateur, la liberté d'un créateur, c'est la liberté de créer son être, au-delà de la liberté de choix. Donc on est encore conditionné par la liberté de choix, on est dans ce stade provisoire où la liberté c'est une valeur très précieuse, mais périlleuse, parce que finalement c'est la liberté de se tromper. Est-ce que c'est clair ? Je vous donne une analyse des grands philosophes là-dessus, et alors je trouve que ça va, la réflexion. En particulier, le seul philosophe qui a mis en raisonnement simple. Et ce qui est simple chez les grands philosophes, c'est génial. L'erreur, les causes de l'erreur, c'est Descartes. Il explique ça comme ça. Les deux facultés de l'intelligence, disons de l'intellect, c'est la volonté et l'entendement. L'entendement, c'est ce qui me permet de comprendre, et la volonté, c'est ce qui me permet de juger, de décider, de vouloir. Et alors, le jugement résulte de la collaboration de ces deux forces, l'entendement et la volonté. D'où vient l'erreur ? L'erreur vient de ce que l'entendement est fini alors que la volonté est infinie. Je peux vouloir au-delà des limites de ce que je comprends. Et lorsque je décide que je crois comprendre quelque chose que je ne comprends pas, je me trompe. Donc c'est dans ma nature même qu'est inscrite la possibilité de l'erreur. Parce que la volonté est infinie alors que l'entendement est fini. Et Descartes explique qu'on ne peut pas être autrement, parce que la volonté ne peut être qu'infinie. Une volonté qui ne soit pas infinie, ce n'est pas une volonté. Et la volonté, le vouloir, est infini. Le pouvoir n'est pas infini, mais le vouloir est infini. Je peux vouloir tout. Je peux vouloir la Lune. Est-ce que je peux arriver à la Lune ? Ça, il faut que j'attende 1969, au mois de juillet, okay, pour arriver sur la Lune. C'était bien en juillet 69, non ? Moi, je suis au le 21 juillet et alors non le 27 je sais plus le 21 et alors pour revenir d'ailleurs non je me rappelle de ça parce que la première chose que les aviateurs américains ont fait c'est de lire des psaumes qui parlaient de la lune et les étoiles, ça je me rappelle très bien, c'était des protestants pieux. Et alors la volonté intérieure est infinie. Donc, lorsque je juge, par exemple, je juge que le ciel est bleu. Alors je dis le ciel est bleu. Pourquoi je risque de me tromper ? Parce que je peux juger que le ciel est bleu alors qu'il ne l'est pas. L'entendement me dit bleu. Mais le ciel est bleu, ce jugement-là, ça vient de ma volonté. Chaque fois que je dis quelque chose, il faudrait que je le formule de cette manière. Je juge qu'il en est ainsi. Et je juge que je suis libre. C'est l'opinion. Et étant donné que la volonté est infinie et que l'entendement est fini, il y a un décalage. Alors voilà l'explication de Descartes. C'est que pour être différent de Dieu, il fallait qu'une de ces deux fonctions soit finie. Or, ça ne peut pas être la volonté, parce que la volonté ne peut être qu'infinie. Donc nous sommes créés avec un entendement fini. Et l'erreur, c'est la condition de notre existence. Pourquoi nous nous trompons ? Pourquoi nous sommes des créatures ? Ça veut dire le prix à payer pour être une créature, c'est le risque de se tromper. Parce que sinon, notre être serait confondu dans l'être de Dieu. Alors pour exister comme créature, différent de Dieu, il faut d'une certaine manière nous acceptions ce risque de l'erreur. D'où la vigilance de ne pas se tromper. C'est-à-dire quand on se trompe, on est responsable. Regardez comment ça se dit en français, je me trompe. Je trompe moi. Celui qui se trompe, c'est un trompeur. Il se trompe. Il faut se méfier des gens qui se trompent parce que c'est des trompeurs. Bon, je referme la parole. C'est clair ? Très souvent, les gens veulent plaider en disant « je me suis trompé ». Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Okay ? Bien sûr, tu t'es trompé. Bon, je referme la parenthèse. Je n'ai pas fini. Ne m'interrompez jamais quand je n'ai pas fini. Vous savez déjà ça. Et alors, j'ai déjà oublié où j'étais exactement. Lorsque l'examen a pris fin, alors on est libéré de ce risque de la liberté qui fait que la liberté, c'est la liberté de fauter, finalement. Est-ce que c'est clair ? Non. Bon. Alors on retient maintenant, pour résumer tout cela, que la liberté, c'est la liberté de choix. Donc le côté positif de la liberté, c'est la liberté de faire le bien. Mais voilà, ça entraîne le risque d'être libre de faire le mal. Alors c'est pourquoi je disais les grands justes, qui savent déjà qu'ils préfèrent le bien au mal, c'est objectivement connu pour eux, alors prient pour la liberté de faire le mal leur soit retirée. C'est la récompense des Baal Tshuva. C'est-à-dire, à quoi rencontre un véritable Baal Tshuva, c'est dans le fait qu'il ne peut plus refaire la faute qu'il avait faite. C'est pas qu'il veut plus, il peut plus. C'est là le signe qu'il a vraiment fait Tshuva. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi, non, ne m'interrompez pas. C'est pourquoi il y a une méthode de, très difficile que les rabbins, finalement, ne conseillent pas. Chez les chassidim allemands, d'ailleurs. C'est que les maîtres remettaient leurs élèves dans l'occasion qu'ils avaient fait, qu'ils avaient fauté, pour être sûr qu'ils résisteraient à la tentation. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très périlleux, c'est très dangereux. Parce que personne ne peut savoir à l'avance si on va résister. Donc c'est pourquoi on déconseille ça. J'ai oublié d'ailleurs comment s'appelait cette chouva. J'ai oublié, c'est un nom très précis. Je l'ai racine également du Sefer Arzim. En tout cas, c'est le signe, effectivement, d'une chouva réussie. C'est encore une fois, on ne peut pas. Je vous donne un exemple. Vous demandez à un juif pieux le Shabbat, et je sais pas, allume la lumière. Eh bien, il vous dira, je ne peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne peux pas? Tu ne peux pas tourner un bouton? Bien sûr, tu peux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu ne peux pas? Il ne peut plus moralement. Il a perdu la liberté morale. Bien sûr, le pouvoir physique, il l'a. Je crois qu'il n'y a qu'en anglais qu'on peut indiquer ces deux nuances du mot pouvoir. Il y a « can » et « mais ». Vous voyez la différence? C'est-à-dire, pouvoir physiquement, il peut. Mais pouvoir moralement, il ne peut pas. Mais il y a vraiment un obstacle absolu. Vous voyez un exemple? Que, effectivement, la récompense de la vertu, c'est de perdre la liberté sur ce point, de faire le contraire de la vertu. Bon, il y avait une question.
Oui, du mensonge alors.
Comment?
Le shaker.
Oui.
Oui, c'est
oui, mais je veux dire, le mensonge, ça trompe personne.
Si?
Le mensonge, ça trompe personne. Quelqu'un qui ment, c'est très bien qu'il ment. Et je veux dire, enfin, l'expérience de la vie montre que ça trompe personne, le mensonge. Quand on fait semblant, c'est de la complaisance. Quand quelqu'un ment, on le sait.
Tu sais pas si...
On le sait. Non seulement lui le sait, mais... et on le sait parce qu'il le sait. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne veut pas le savoir? C'est ça le mensonge, c'est faire comme si...
C'est ça la médecine.
Le...
La faute volontaire.
Ça se relie à ça, bien sûr. Mais la faute volontaire, non, c'est pire que ça. On ne se cache pas de ce qu'on fait. On ne fait pas semblant de faire le bien. On sait que c'est le mal, et c'est en tant que mal qu'on le fait. Ça, c'est bien mesil. Mais je veux dire, ceux qui ont les... Je prends un exemple privilégié. Les parents savent très bien si quand leurs enfants mentent ou quand ils ne mentent pas. Et un mari sait très bien si sa femme lui ment, et une femme sait très bien si son mari lui ment. Il y a ça, c'est un tout petit changement dans la voix et ça suffit. Des petits signes de connivence, d'ailleurs. Je connais des hommes qui sont incapables de mentir. Vraiment incapables de mentir. Et alors ils ne mentent pas. Quand ils ne veulent pas dire quelque chose qu'on veut leur faire dire, ils ne le disent pas. Ils répondent à côté, mais ils ne disent pas un mensonge. Et c'est un sujet important, cet exemple. Le verset dit « Midevar sheker tilhak » de la parole du mensonge, tu t'éloigneras. Parce qu'on a fait la remarque suivante, il n'y a pas d'interdiction de mensonge dans la Torah. Il n'y a aucune interdiction, tu ne mentiras pas. Pourquoi ? Oui, par exemple. Parce que on peut être mené. Hein, c'est ça que je demande. Un exemple. Dans quel cas? Par exemple. Oui. Pour sauver quelqu'un, parfois, il faut mentir. Donc sauver quelqu'un, ça passe avant. Seulement, c'est d'abord mégouné. C'est une chose que la Torah n'aime pas. Alors elle indique qu'elle n'aime pas, mais elle n'interdit pas, parce qu'elle sait qu'il peut y avoir des cas où il faut le faire. Et les hommes sont tellement, surtout ceux qui pratiquent une loi, sont tellement pris par la discipline de la loi que si jamais il y avait écrit « il ne faut pas mentir », Même si on leur demandait de mentir pour sauver quelqu'un, ils diraient non, je mens pas. Il y a des justes comme ça. On appelle les justes parfaits. Vous pouvez les appeler les justes. Je sais pas comment on dit. Imparfaits. Et je connais des gens comme ça. Et même si on leur explique clairement que pour sauver quelqu'un, il faut violer tel détail de tel commandement, ils seront brûlés, ils verront pas le détail du commandement, et les yeux fermés, parce que c'est écrit comme ça. Il faut se méfier de ça, ça existe. Okay. Alors c'est en tenant compte de ce genre de comportement humain que la Torah prévoit. Il y a d'autres commandements qu'on ne trouve pas dans la Torah, des choses évidemment mauvaises. Et la Torah raconte qu'elle n'aime pas ça, mais elle l'interdit pas, parce qu'elle sait très bien que c'est par le pouvoir de l'homme de ne pas le faire. Je ne vous donne pas des exemples, parce que après tout je devrais, mais je ne vous donne pas d'exemple parce que ça pourrait... Il y a trop de gens pas assez âgés parmi vous. Quand vous aurez l'âge qu'il faut, je vous donnerai des exemples. Bon, mais apprenez bien les 613 commandements de la Torah. Vous verrez qu'il y a des choses évidemment mauvaises qui ne sont pas interdites expressément, mais que la Torah raconte qu'elle n'aime pas ça et qu'il ne faut pas le faire. Seulement, encore une fois, il n'y a pas de commandement express, parce que la Torah sait, la nature humaine est telle que on ne pourra pas surmonter. Bon, c'est clair. Alors vous allez lire le verset 12, le verset 13, etc. Tout ce que la Torah demande est introduit par qui l'Ira et Hachem. Vous lirez vous-même tout cela. Donc ce que je vous indique, parce que je ne veux pas qu'on tarde trop, c'est que ce n'est pas uniquement la crainte de Dieu que la Torah réclame de nous, puisqu'elle réclame de nous de libérer tout notre comportement. Elle réclame de nous tout ce que la Torah demande. Mais la condition que ce soit authentique, c'est d'avoir qui est Yirat Hashem Elokecha. C'est clair ? Alors on va lire demain. Je reprends à la fin de la première ligne. Et là, ça commence par un autre verset de la paracha que je vous donne tout de suite dans le chapitre 10. Prenez le verset 17. Comment je vois ça ? Oui, verset 17. Qui Hashem Elokecha, car Hashem notre Dieu, vous, lui, et Elohe Elohim, le Dieu des dieux, va donner à Adonim et le maître des maîtres, à El Agado, la Gibor Vanora, le Dieu grand, fort et redoutable. Gibor, c'est plus que fort, c'est puissant et redoutable. Asher Loï Sapanim, qui n'est pas complaisant. Littéralement, ça veut dire qu'il ne tient pas compte de l'apparence des personnes. C'est-à-dire, si quelqu'un apparaît comme injuste, devant le tribunal, c'est pas parce qu'il apparaît comme injuste qu'on va lui dire tu es juste pour faire le procès. Vous avez compris ce que je veux dire? Le car shohad, et qui n'accepte pas de shohad, de pot de vin. Mais shohad, c'est. Vous savez ce que c'est? Comment on dit en français? Corruption. Et vous avez des gens très pieux qui passent en jugement pour corruption, comme vous le savez. Hein?
Non, c'est le soudoiement,
le soudoiement. Non, c'est pas le soudoiement. C'est des prébandes. C'est comme ça qu'on dit en français. Non, vous connaissez ce mot-là? Prébande, oui. C'est quand on donne de l'argent à un juge pour qu'il oriente son jugement. Là, vous avez tous les... Actuellement, on est dans une époque où, dans tous les pays dissivilisés, les jugements qu'il y a sur des procès de corruption, c'est énorme. Mais quand ça touche... La hiérarchie religieuse, c'est grave. Et ça touche. Vous savez que actuellement, en Israël, il y a un procès qui dure depuis des années. Vous savez lequel, hein? Et puis, le gouvernement, qui a besoin des voix du parti en question, fait tout ce qu'il peut pour que le procès n'ait pas lieu. J'ai encore aujourd'hui d'entendre à la radio que les avocats ont décidé de démissionner. Ça va faire encore 6 mois de rallonge pour trouver d'autres avocats. C'est des, comment on dit en français, stratégie pour...
Dilatoire,
oui. Vous savez, bon, il ne faut pas parler d'Aurélie Yosef, il est en deuil aujourd'hui, mais je vous avais cité Sérachet et Vot, Da'at Rabbi Ovadia Yosef, Otiot Deraï. Vous avez remarqué ça? Deraï. Da'at Rabbi Ovadia Yosef, ça fait Deraï. Vous savez qui c'est Deraï? On a fait pour cette personne. C'est Jafar que dès là, il parle à la radio, il dit, je vais demander l'avis du roi Yosef. Da'at, Rabbi, on va dire Yosef. Bon, alors vous avez dans la paracha qu'on vous a donné par écrit, vous avez une étude sur ce verset, vous l'avez là, paracha avec elle. On verra la paracha en sortant, ceux qui ne l'ont pas eu. Il y en a encore des parachutes là-bas. C'est rien ? Oui, mais la semaine dernière, c'était avec Hanan, là, c'est avec
toi.
Bon, alors on prend notre tête. Vous suivez avec moi, je vois quelle heure il est. Quelle heure il est ? 8h20 déjà ?
Oui.
Ben, ça va vite. On va essayer d'aller. Je traduis. Ahou dinchet kame de Rabbi Hanina. On cite le cas de quelqu'un qui s'est mis à faire la prière devant Rabbi Hanina. Je ne vous traduis pas littéralement. Chaque mot, je demanderai une parenthèse. Mais je vous donne le sens global. Très souvent, à la fin d'un cours, le maître demandait à un élève de commencer à faire la prière. Alors, le cas d'un élève qui priait devant Rabbi Hanina. Amar, et il a dit, « Ha'el agadol agibor vanora, le Dieu grand, puissant et redoutable, à dire, ve'aizouz, ve'aïr'ou, à dire, puissant, aizouz, comment on dit, rose, la force. Tous des adjectifs de, comment on dit ça en français, c'est une litanie de, d'attributs de la divinité. Ve hazak, le fort, à mis, le valeureux, à vadaï, l'évident, à l'irbad, le considéré. Emporté dans l'élan de sa prière, il commence à elle, à gadol, à gibor, à noa, il fait une litanie de définition de Dieu. Intimo ad-desayem. Le maître l'a attendu jusqu'à ce qu'il ait fini. Il ne peut pas l'interrompre, il est en train de prier. Et puis aussi un peu d'humour. Il voulait voir jusqu'où il allait. Quand il s'est arrivé, il dit, t'as pas honte, tu as arrêté. Tu as entrepris de dire la louange de Dieu et tu t'arrêtes. Vous avez compris le problème. Qui s'y aime à Marlé. Lorsqu'il a arrêté, il lui a dit, si amtinou, le choulou, chifhé de marech, comment tu as eu le courage de finir l'ensemble des louanges de ton maître, la malikoule aïe. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Anan, nous, Hanet, la terre d'Abrinan, ces trois adjectifs que nous disons, ces trois attributs, Hayel Agado, la Gibor, Anora, le Dieu grand, ça correspond à l'amidat de Dieu d'Abraham, Gibor, puissant, Dieu d'Isaac, Nora, redoutable, Dieu de Jacob, Ilav d'Abrinahou, mon cher Abenou, Garaïta, si ce n'était pas Moïse, notre maître, qui l'avait dit dans la Torah, vers tout un chèque Nesetagdola, et que les hommes de la grande assemblée sont venus, Vetachnin ou Bitfila, ils l'ont institué dans la prière. Là, on n'aurait pas eu le droit de le dire. C'est-à-dire, qui a le droit de définir les attributs de Dieu? Qu'est-ce que je dis quand je dis que Dieu. Je prends un petit exemple. Qu'est-ce que je dis quand je dis que Dieu est grand? Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait ne pas l'être? C'est-à-dire, c'est un problème très, très, très vaste chez les théologiens, surtout chez Maïmonide. Qui, la théorie de Maïmonide, c'est que les attributs de Dieu doivent être compris comme des attributs négatifs. Parce que dire que Dieu est grand, est-ce que c'est vraiment une louange? Ou est-ce qu'il n'y a pas une impertinence cachée? Qu'est-ce que ça veut dire devant Dieu? Qui est l'absolu, je vais dire il est grand. Et comme une louange, je vais le féliciter d'être grand. Est-ce qu'il pourrait ne pas l'être? Vous avez compris ce qu'il y a derrière, la difficulté? Et dis-nous en réalité, ce sont des qualificatifs de négatif. On veut dire il n'est pas petit. Là, Maïmonide, la théorie de Maïmonide, que j'adopte pas, mais je vous l'expose. La théorie de Maïmonide, c'est pour éviter ce qu'on appelle les anthropomorphismes. Appliquer à Dieu des qualifications qui ne vont que pour l'homme. Bien. En été, si la Torah a dit à El Agadol Givor Anora, elle connaissait le problème des anthropomorphismes, elle connaissait les objections des théologiens, elle a dit quand même, ça a un sens positif à ces mots-là. Mais pédagogiquement, c'est moi qui dis pédagogiquement, Maïmonide ne veut pas nous laisser tomber dans l'erreur, le risque de l'erreur de l'anthropomorphisme, et il nous dit que les attributs sont des attributs négatifs. Vous avez compris ça? Donc, en réalité, il y a un sens positif à grand. Grand, ça veut dire qu'il s'occupe de plus petit que lui. Qu'est-ce que c'est la grandeur? C'est de s'occuper d'un plus petit. Est-ce que c'est clair? Bon, ça on apprend chez les kabbalistes. Donc, alors voilà ce que dit la Gemara. Si la Torah ne l'avait pas dit, on n'aurait pas le droit de dire ces adjectifs. Et toi, tu entreprends toute une litanie d'adjectifs. Autant qu'il y a de lettres dans l'alphabet, tu recommences. Là, vous avez déjà remarqué que nous avons énormément de poèmes de ce genre. Adirou, Mimni Piel, enfin toutes ces litanies. Donc. Et il dit, Machal, à quoi ça ressemble? Les Meler Masavadam, c'est comme si un roi de chair et de sang, Shaulo Elef Alafim Dinarezav, qui avait des milliers de milliers de dinars d'or, Vayoume Kalsin Oto Beshel Kesef, et on le félicitait en parlant de dinars d'argent. Ça veut dire, tu auras beau employer tous les adjectifs que tu l'emploies, c'est, ce n'est que des louanges d'argent pour quelqu'un qui possède de l'or. Vous avez compris l'idée? C'est facile à comprendre. Valognaï Hulo, n'est-ce pas? C'est le contraire d'une louange, un mépris. Bama Rabbi Hanina. Et Rabbi Hanina avait enseigné. Ce même Rabbi Hanina qui a enseigné ce qu'on vient de voir avait enseigné. Et chaque fois qu'il y avait Bama Rabbi Hanina, qu'on cite un deuxième enseignement du même maître, c'est parce que les sujets sont liés. Ne croyez pas qu'il y a uniquement association d'idées. J'ai entendu beaucoup de maîtres des Yeshivot qui expliquent autrement, qui disent, puisqu'on l'a cité pour cet enseignement, alors on a profité, on a cité un autre enseignement de lui. Ça c'est Shreuti, comme on disait, association d'idées arbitraires. Okay, en réalité, c'est parce que la Gemara veut nous faire approfondir ce qu'elle vient d'enseigner par un autre enseignement du même maître. Il y a toujours un lien. Je continue. Rabbi Chanina avait dit, Akol bide shamaim, tout est entre les mains de Dieu, Kut mirat shamaim, là où vous référez à l'introduction que j'ai eue, je ne reviens pas dans le détail, sauf la crainte de Dieu, chez Nehema, d'après ce qu'il est dit, c'est notre verset, Ve'ata Israël, et maintenant Israël, Mashem l'ankirachon me'imach, qu'est-ce que Hashem ton Dieu réclame de toi, qui imnira si ce n'est que de le craindre. Jusque-là. Vous voyez, on a appris que Ve'ata, c'est après la tshuva. C'est-à-dire, vous aviez toutes les vertus, et cependant vous avez fauté. Qu'est-ce qu'il avait manqué? Il avait manqué la crainte de Dieu avant. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant que vous avez fait tshuva, sachez que la clé de tout, le levier de tout, c'est la crainte de Dieu d'abord. C'est-à-dire, si on n'a pas le respect des valeurs, et ça commence par la peur de la faute, des conséquences de la faute, de l'obligation de la loi, etc., la peur de porter atteinte à la valeur, et encore une fois, je reviens sur l'analyse de tout à l'heure, je crois que c'est très important de se rappeler de cela. La valeur est exposée alors qu'elle est toute puissante. Il y a une très belle Gemara sur un verset de Shir HaShirim. Le verset de Shir HaShirim compare la Knesset Israël comme une jeune femme qui est sainte de rose, Tzura Vashoshanim, sainte de rose. La Gemara dit, il y a entre l'homme et la valeur que la protection de pétales de rose. Et alors que, pour se défendre, la valeur n'a que cette protection d'un pétale de rose. Alors avoir peur de porter atteinte à cette valeur exposée, vulnérable. Est-ce que vous avez fini par comprendre au-delà des mots ce que ça signifie? Une espèce de respect de la valeur qui est le commencement de la moralité, le commencement et la fin de la moralité. Si on n'a pas cette peur-là de porter atteinte à ce qui est dénudé, il faut le recouvrir, le respecter. C'est exposé, alors qu'il s'agit de quoi? De la valeur qui peut tout contre moi, sauf le fait que je la respecte. Est-ce que c'est clair? Réfléchissez bien à ça, qui me l'aïra. Si ça avait manqué, alors tout le comportement, on a suivi le verset 12, le verset 13, de tout ce que la Torah demande, est faussé. Vous avez des gens qui sortent de la prière et ils se mettent en colère. Je connais des gens très pieux, ils viennent de prier. Et puis, pour des futilités, ils se mettent en colère. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais non. En réalité, ça veut dire qu'ils sont malades, qu'il faut les soigner. Et les gens qui sont malades ne sont pas tellement responsables. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Mais grosso modo. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la Yirat Hashem, alors on tombe dans toutes ces invraisemblances. On continue. Alors, la Gemara intervient. Tu viens de dire qui hymne, si ce n'est. Alors, le camarade dit, vous suivez ce texte, hein? À tout, et maintenant, cependant, Irat Shamaim, Mita Zutretahim, la crainte de Dieu. C'est une petite chose que tu dis, si ce n'est que ça. Tu dis que ça pour la crainte de Dieu. Est-ce que ça vous veut dire c'est une petite chose? Et, Rabbi Hanina, mais n'est-ce pas que ce même Rabbi Hanina avait enseigné au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, et non, l'Akadosh Baruch Hu Bet Gnezav, Dieu ne possède dans ses trésors, et la haute sarche de l'Irat Shamaïm, qu'un trésor de crainte de Dieu. Et tu peux dire, toi, que c'est une petite chose. Voilà, la seule chose qu'a pris aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il a dans ses trésors, dans son coffre-fort, si je veux dire, un trésor de l'Irat Shamaïm. J'explique ça, l'idée est très claire. Tout ce que Dieu possède, c'est à lui. Par conséquent, si je possède quelque chose qui est à moi, je ne peux pas dire que je possède quelque chose de précieux. C'est à moi, je le possède. Ce qui est vraiment précieux à mes yeux, c'est que je ne peux pas posséder de moi-même et qu'on m'a donné. Alors ça, c'est précieux. Alors, la Yirat Shamayim que Dieu donne aux hommes, que les hommes donnent à Dieu, c'est ça, le trésor de Dieu. Parce que tout le reste, c'est à lui. On raconte chez les Chassidim une histoire, je vais raconter rapidement, je voudrais arriver à la fin de la traduction. J'y arrive. C'est qu'un jour, Dieu s'est révélé. Un balabait, un juif pieux, très, très pauvre, très modeste. Et sous la forme d'un roi qui se révèle à lui et qui lui dit, écoute, tu es mon sujet, je vais être invité chez toi, Shabbat. Prépare-moi le repas de Shabbat. Et le balabait a été très embêté quand je recevrai le roi chez moi. Bon, il a emprunté, il a... Et finalement, il a préparé une table de Shabbat avec deux chalot, deux nerot, une nappe blanche. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il avait honte, comment le roi, il va venir chez moi avec. Et voilà que le cortège du roi arrive. Et devant le roi, il y avait des héros, il y avait le cortège, avec d'énormes chandeliers, des chalotes superbes, qui apportent tout ça. Alors le petit juif était très très content, dit le roi, a eu pitié de moi, il m'a envoyé ce qu'il faut pour le recevoir. Et puis il change tout, il met les grands chandeliers, les grands chalotes, il attend le roi tout emporte. Le roi arrive, il se met en colère. Il dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Il dit, ça c'est à moi. Ce que j'ai demandé, c'est tes chalotes à toi et tes nerots à toi. Vous avez compris l'histoire, okay? Ça veut dire que les petites chalotes et les petites nerots ont beaucoup plus de prix que toutes ces grandes choses qu'il possède dans son palais. C'est clair. Alors il dit, comment tu veux dire que ça? Mais c'est ça le trésor de Dieu. Chez Néhémie, d'après un récit qui dit, Yirat Hashem, hi otzaro. C'est la crainte de Dieu qui est son trésor. Je crois l'explication est très simple. Qu'est-ce qui a du prix aux yeux de Dieu? Ce qui vient de l'homme. Parce que tout ce que Dieu donne à l'homme, ça lui appartient. Et par conséquent, comment tu peux dire qu'il répond in. Faites attention. In en araméen, ça veut dire oui. En en hébreu, ça veut dire non. Mais ne vous trompez pas. In en araméen, ça veut dire oui. Est-ce que quelqu'un connaît le grec? En en grec. En, ça veut dire. Oui, et iné, un peu en hébreu. In, on en ramène. In, les gavets mon chien, une tasse ou trataille. Par rapport à Moïse, c'était une petite chose. D'Amar Rabbi Hanina, Moïse peut dire une petite chose parce qu'il la possède. D'Amar Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina avait enseigné. Machal, à quoi ça ressemble? Les Adam, chez Mavakshim, Menou, Keli Gadol, Veyeshlo. Un homme de qui on demande un objet grand, mais il l'a. Dome Alav, Kiknik Adam. Ça apparaît à ses yeux comme une petite chose puisqu'il l'a. C'est pas insurmontable. Katam Benou, on lui demande une petite chose mais il ne l'a pas. Domé Alaf Kikigadol, ça lui ressemble comme une grande chose. Et vous y êtes jusque-là? Voilà, c'est jusque-là ce que je voulais qu'on étudie. Le reste, si on a le temps, on pourrait le lire, mais c'est déjà un autre sujet. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que. La Gemara explique en disant Moïse peut dire c'est une petite chose la Yirat Shamayim parce qu'il la possède. Là je vous ouvrirai une petite analyse, vous allez comprendre un peu que c'est l'étude sur la Gemara. Jusque là la Gemara c'est simple, vous avez compris ce qu'elle veut dire. Alors objection, Moïse c'est très bien, il a sa plus grande vertu c'est la modestie et par conséquent il est modeste. Il possède la Yirat Shamayim, il possède la crainte de Dieu. Mais parce qu'il la possède, ça ne lui paraît pas quelque chose d'inatteignable. Puisqu'il la possède, c'est qu'on peut la posséder. Donc, puisque lui peut la posséder, n'importe qui peut la posséder, c'est ça son humilité. Mais c'est là l'objection. Est-ce que Moïse, qui non seulement était humble, mais était haram, ne sait pas que pour les autres, ce n'est pas une petite chose? Parce que précisément les autres ne la possèdent pas. Vous comprenez l'objection? Non, il n'y a pas compris. Non. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, Ken? C'est-à-dire la réponse de la Gemara, à première lecture, paraît extrêmement satisfaisante. Mais ça ne suffit pas. Bon, encore une fois, je répète très simplement, parce que Moïse, comme éducateur, comme dirigeant du peuple, sait très bien que dans l'idéal, je vois, si vous voulez, un sermon d'un rabbin disant à ses juifs, Mais de quoi vous plaignez? Qu'est-ce qu'on vous demande? Un tout petit effort, la crainte de Dieu, et tout le reste vient avec. Mais c'est justement ça qui est insurmontable. Vous avez compris?
Qu'est-ce que ça veut dire alors aimer Dieu avec son bon et son mauvais penchant?
Tu as pensé à une autre. C'est précisément ce qu'il demandait, ça. Mais ça, je vais voir si j'ai le temps tout à l'heure. C'est lié. C'est Bechol Levavecha, tu veux dire. C'est sur le verset de Bechol Levavecha que ça a été enseigné. Je vais dire rapidement, parce que je n'aurai pas le temps après une minute, pas deux à la fois. Bechol Levavecha, ça veut dire, si je sers Dieu avec mon penchant au bien, je ne saurai jamais si je me suis fait plaisir à moi ou si j'ai servi Dieu. C'est si je sers Dieu avec mon penchant au mal, si j'arrive à sublimer mon penchant au mal, à le faire servir au bien, alors que c'est vraiment un effort. Mais si ma tendance naturelle va avec ce que la loi demande, je le mérite. J'ai compris. Et par conséquent, ce qu'il faut comprendre, c'est au-delà de ce qu'on lit habituellement. C'est Rachid qui cite cette explication sur « De tout ton cœur, le mot qui l'envoie par le verset, c'est l'évav avec deux bêtes. Lève, le cœur unifié, c'est un seul bête. L'évav avec les deux côtés. Le côté du penchant au bien, le côté du penchant au mal. » Donc finalement, ce que la Torah demande, c'est ce qui va de soi, c'est qu'elle demande de servir Dieu avec le penchant au mal. Après, elle demande aussi que le penchant au bien. Et alors, c'est ça la grande difficulté. Servir Dieu avec le penchant au mal, c'est facile. Il suffit de sublimer l'instinct. Servir Dieu avec le penchant au bien, ça, c'est difficile. Et je vais vous donner deux exemples. Un premier qui est classique, c'est le jour de Kippour. On a deux jours de Kippour. Il y a le jour du 10 Tishri, où on sert Dieu en jeûnant, et le 9 Tishri, il faut manger toute la journée. Je ne sais pas si vous savez ça. Alors, servir Dieu en mangeant toute la journée, c'est plus difficile que servir Dieu en jeûnant. Une approche du problème. Mais une chose très simple que j'ai l'habitude de citer, nous avons une mitzvah, c'est plus qu'un minhag, c'est une mitzvah, c'est de manger le poisson du Shabbat. Et alors, pour quel goût on mange le poisson du Shabbat? Pour le goût du poisson ou pour le goût de la mitzvah? Quand le poisson est bon, est-ce qu'on a un mérite de manger le poisson le Shabbat? Parce qu'on goûte le goût du poisson. Ben oui, arriver à goûter le goût de la mitzvah, bien que le goût du poisson soit un goût bon, ça c'est difficile. Et donc servir Dieu avec le penchant au bien, c'est plus difficile que le penchant au mal. Mais en fait, le pshat, le chidouche, c'est le penchant au mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi la Torah a aussi demandé le penchant au bien. C'est pas facile. Et c'est ce que nous disons dans la Hazara du vendredi soir. On demande à Dieu, les Ovdecha Behemet, qu'on te serve en vérité. Parce que servir Dieu, c'est pas difficile. Il y a des tas de gens qui jouent à ça. Mais le servir en vérité, ça c'est difficile. Bon, alors, je reviens à ma question. Je vais vous donner une deuxième lecture de la Gemara. La première lecture de la Gemara, c'est In, oui, les Gabé Moshe, par rapport à Moïse, Milta Zutretaï, c'est une petite chose. Mais là, l'objection, c'est qu'est-ce que Moïse ne sait pas, ça, que pour les autres, c'est pas une petite chose. Alors, il y a une autre lecture. Les Gabé Moshe, on peut le lire à côté de Moïse. Quand Moïse est là, c'est facile. Si Moïse n'est pas là, ça devient une montagne. Et ça, c'est une expérience que nous avons tous les jours. C'est-à-dire, il y a des hommes à côté de qui la vertu, c'est facile. S'ils ne sont pas là, ça devient difficile. Et ça à tous les niveaux. Et c'est ça Moïse. Quand il est présent, la Torah, c'est facile. Mais s'il n'est pas là, ça devient une montagne. Est-ce que c'est clair? La première fois que j'ai compris ça, c'est avec un rabbin qui s'appelle Moïse, d'ailleurs. C'est ce genre d'hommes que, quand ils sont présents, c'est facile. J'ai été l'élève d'un rabbin que vous avez connu, c'est le rabbin Chini. Il ne s'appelait pas moi, il s'appelait Aaron, comme par hasard. Alors c'était un rabbin extraordinaire. Et quand il était présent, on n'avait plus aucun problème. Et on avait des problèmes de difficultés, d'études. Et puis, dès qu'on était à côté de lui, il n'y avait plus aucun doute. Et ça devenait infantile de lui poser une question. Bien sûr, il est là, et bien c'est que ça a un sens. Je ne sais pas comment décrire ça, mais vous voyez, vous l'avez connu. Il était vraiment comme ça, à côté de lui. Qu'est-ce que ça veut dire se demander est-ce que Dieu existe ou Dieu pas existe? Lui, il existe, hein, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je ne sais pas si vous voulez. Il faut avoir le privilège d'avoir rencontré des maîtres de ce genre. Et même à un autre niveau, Je me souviens d'avoir étudié une fois, d'avoir étudié pendant 2 heures la même Gomara avec le Rav Ashlag, il y a très très longtemps, il y a 30 ans, je me rappelle très bien. Et puis il y avait le gendre du Rav Ashlag qui étudiait avec nous et qui a demandé au Rav Ashlag, mais comment ça se fait qu'on peut comprendre ça? Alors il nous a répondu par un verset concernant Joseph. Lorsque Joseph s'est fait reconnaître de ses frères, alors le verset dit, Joseph s'adresse à ses frères et dit, Enechem Marot, ve Enechem Binyamin, qui pire en d'aver Alechem. C'est bien vos yeux qui voient, et ainsi que les yeux de mon frère Benjamin, que c'est ma bouche qui vous parle. La question sur le verset est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire, vos yeux voient que c'est ma bouche qui vous parle? Il aurait dû dire, vos oreilles écoutent que c'est ma bouche qui vous parle. Bon, on peut expliquer quand même, vos yeux voient que c'est bien moi qui vous parle. Mais pourquoi le formuler de cette manière-là? Alors le Rav avait expliqué, vos yeux voient parce que c'est ma bouche qui vous parle. C'est clair. C'est-à-dire, quand le maître est là et qu'il explique, on comprend. S'il n'est pas là, on ne comprend plus. La même chose. C'est pourquoi il faut étudier. La Gemara dit, 101 fois, c'est mieux que 100 fois. Jusqu'à qu'on récupère ce qu'on avait appris quand le maître était présent. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a quelque chose, je ne peux pas paraître comme mystérieux. Une espèce de tsinor qui passe, mais quand Joseph est là, alors les yeux voient. Si Joseph n'est pas là, ce qu'il y a à voir, il est là, mais on ne le voit pas. Mais ça peut se récupérer à force d'études. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Vous avez dû d'ailleurs souvent avoir cette expérience. Quelqu'un vous avait dit quelque chose, au moment où il l'a dit, c'était évident. Et après, il n'est plus là, et c'est plus évident du tout. Vous avez remarqué ça, c'est joli. Bon, ben c'est la même chose, c'est ça, Moïse. Si. Moïse peut dire à son peuple, la Yirat Shamaïm, c'est une toute petite chose. La preuve, c'est que moi, pour moi, c'est une petite chose. Alors quand il est présent, c'est une petite chose. Mais dès qu'il n'est pas là, ça devient une montagne. Alors c'est pourquoi il faut arriver par l'étude à récupérer ces moments d'évidence. Où, lorsqu'il y a ces moments d'évidence, la Yirat Shamaïm, c'est évident que c'est une petite chose. Et c'est l'étude qui permet de récupérer ça. Un de mes maîtres disait, chaque juif a son événement du Sinaï portatif et personnel. Ça arrive à chacun, au moins une fois dans sa vie. Quand on est privilégié, ça arrive souvent, qu'une fois, quand on a étudié, on a compris. Il y a un sens. Et alors, pour chacun, c'est ce mot-là, ce jour-là, pour un autre, c'est un autre mot, un autre jour. Je ne sais pas si c'est clair ce jour-là. Mais personne ne peut nier qu'une fois dans sa vie, il a eu cette expérience. Moïse était présent. Vous avez compris. Et alors, après, c'est l'étude qui permet de récupérer ça pour l'ensemble de la Torah. Bien, et bien, je crois qu'on est arrivé au bout de l'étude. Simplement, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on a remarqué une chose, c'est qu'il y a deux noms qui n'apparaissent pas chez aucun rabbin du Talmud. Les noms de Moïse et de Aaron. Les mères n'osaient pas appeler leurs enfants Moïse ou Aaron. Aujourd'hui, on appelle les enfants n'importe comment. Napoléon. Parce que quand on appelle un enfant d'un nom, on dit tu seras ainsi. Mais quand, dans l'étude, un élève avait bien compris, le maître disait Moshe Shafir Kamarta, tu as bien parlé. Voilà, un élève qui avait bien compris, on l'appelait Moïse. Alors c'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire quand Moïse est présent, les choses sont simples, les choses sont évidentes. Il ne suffit pas que le livre soit présent. Il faut que, ça c'est la Berina de Joseph, d'après le verset que je vous ai cité. Alors retenez le verset, vos yeux voient, parce que c'est ma bouche qui vous parle. C'est comme ça que Joseph s'est fait reconnaître de ses frères. Mais rappelez-moi une fois qu'on étudie l'ensemble du verset avec les commentaires de Rashi. Maintenant, il est déjà 8 heures, j'ai plus le temps. Mais peut-être la semaine prochaine, avant de commencer l'étude de la Parasha de Ré, vous me rappellerez le verset de Joseph. D'ailleurs, ça tombe bien. Ré, c'est Enechem Marot. Alors, on va faire à vite.